midi, midi 15, le quart d'heure actu sur RCN. Magali Santulli.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 juin, on jette un coup d'œil à la météo du jour en Meurthe-et-Moselle. Quelques petits cumulus sont à signaler, mais c'est le soleil qui brille très largement, peu de vent et un thermomètre encore en hausse, avec des températures comprises entre 26 et 30 degrés cet après-midi. Par ailleurs, la région est toujours en alerte rouge au pollen. Dans notre dossier du jour, la méthanisation se déploie en Meurthe-et-Moselle pour produire du gaz vert, un gaz 100% renouvelable produit localement à partir de déchets organiques. Mais d'abord, les premières restrictions d'eau tombent dans le département. Si pour l'instant la Meurthe-et-Moselle n'est pas encore en vigilance sécheresse, certains maires devancent la préfecture. À Gondreville, par exemple, le maire a pris un arrêté pour réduire la consommation d'eau des particuliers, mais aussi des services techniques, interdisant également aux agriculteurs l'irrigation. La communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois annonce aussi des restrictions de consommation d'eau pour les particuliers.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Et tout de suite, c'est le rappel des titres. Les effets du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran commencent à se faire sentir. Des pétroliers iraniens ont franchi le détroit d'Ormuz après 2 mois de blocus américain. Ce protocole conclu dimanche entre Téhéran et Washington prévoit la fin des mesures pour empêcher la circulation dans le détroit d'Ormuz. Malgré cet accord, Israël a frappé le sud du Liban à plusieurs reprises ces dernières heures. Depuis lundi, l'Iran martèle que ce protocole doit inclure une cessation des hostilités au Liban, où Israël divisait le Hezbollah, allié de Téhéran. Une vague de chaleur déferle ce mercredi sur la France avec des températures comprises entre 30 et 35 degrés dans de nombreux départements et avec des pointes à 36 jusqu'à 37 degrés possibles. Cet épisode de forte chaleur va durer plusieurs jours et s'intensifier à la fin de la semaine avec des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 40 degrés localement dimanche, qui sera aussi le premier jour de l'été. Alors que 50 départements sont concernés par une vigilance jaune à la canicule, un passage en vigilance orange est probable à partir de jeudi midi sur les régions allant du bassin parisien au centre du pays, estime Météo France. En prévision de panne potentielle de climatisation, la SNCF a décidé de supprimer jeudi et vendredi plusieurs trains intercités. Certains oraux du baccalauréat pourraient être reportés. Le tueur en série Francis Holm est renvoyé devant les assises pour le meurtre de Jean-Joseph Clément commis en 89. Ce réparateur en machine agricole de 59 ans a été retrouvé mort près d'Avignon. Soupçonné du meurtre, Francis Holm a reconnu les faits en 92 avant de se rétracter. Il a finalement bénéficié d'un non-lieu en 2002. Mais il a de nouveau été mis en examen en octobre 2023 à la réouverture de ce cold case en raison de charges nouvelles. En février 2025, Francis Holm a été extrait de sa cellule de la maison d'arrêt d'Ensisheim dans le Haut-Rhin pour être interrogé sur ce meurtre. Début avril, le tueur en série a été hospitalisé à Nancy. Au printemps, le parquet du pôle cold case de Nanterre n'avait pas donné davantage de précisions sur son état de santé. Francis Holm est à ce jour condamné à perpétuité pour 11 meurtres commis entre 84 et 92. Allez, on passe tout de suite au dossier du jour.
RCN, le quart d'heure actu, Magali Santulli.
La méthanisation se déploie en Meurthe-et-Moselle et permet de produire ce que l'on appelle du gaz vert. Issu de ce processus de méthanisation, le biométhane est un gaz 100% renouvelable, produit localement à partir de déchets organiques issus de l'industrie agroalimentaire, de la restauration collective des particuliers, de déchets agricoles ou encore de boue de stations d'épuration. Écoutez Jean-Louis Dalmolin, il est directeur territorial Meurthe-et-Moselle-Vosges pour l'entreprise. GRDF.
Le GRDF, c'est le principal gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France. Et chaque jour, nous acheminons l'énergie en toute sécurité auprès de millions de clients, au cœur des territoires, au plus près de la vie locale. Mais aujourd'hui, cette énergie se transforme. Et GRDF est pleinement engagé dans la transition énergétique avec notamment le développement des gaz verts qui sont locaux, décarbonés, renouvelables et qui se font à partir de biodéchets.
Des biodéchets qui servent à alimenter des unités de méthanisation.
Qui va les transformer et de cette transformation résultera du gaz vert qui partira dans le réseau GRDF et qui sera consommé tous les jours par les clients qui utilisent du gaz. Les unités de méthanisation utilisent la méthanisation comme son nom l'indique. Et en fait, pour faire très simple, imaginez une poche hermétique dans laquelle on vient mettre un certain nombre de déchets, de résidus, qui normalement sont peu ou pas exploités. Et avec un phénomène naturel, une alchimie va se faire à l'intérieur de ces cuves et va sortir de ces cuves du gaz vert. En ce qui nous concerne, le gaz part dans les réseaux de distribution et va au client final. Vous allez chauffer une partie des habitants, vous allez l'utiliser pour la cuisine, vous allez l'utiliser pour de l'eau chaude. Et l'avantage du gaz vert, c'est que en fait, on n'a aucun besoin de modification technologique pour l'utiliser. C'est-à-dire que quelle que soit la chaudière que vous avez qui fonctionne au gaz, elle est apte à recevoir du gaz vert. La molécule est identique. Et donc, il n'y a aucun changement de la part des personnes qui l'utilisent. Donc ça, c'est pour les particuliers, mais il y a aussi des industriels qui ont des process particuliers et qui utilisent également du gaz vert.
Le gaz vert permet ainsi de réduire les émissions de CO2 de 80%. Au mois de janvier, en Meurthe-et-Moselle, le gaz vert représentait une part de 6% dans le réseau de gaz.
Donc 6%, ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais si on illustre ça, ça correspond à peu près 38 000 logements chauffés. Voilà. On a une projection et on sait de manière certaine qu'en 2030, on arrivera à peu près à 23% de gaz vert dans le réseau, donc presque un quart. Et là, ça correspond à l'équivalent de 142 000 logements chauffés. Les processus de méthanisation sont très cadrés administrativement et il y a un certain nombre de règlements qu'ils doivent suivre. Entre le moment où une personne ou un agriculteur souhaite monter une unité de méthanisation et entre le moment où l'unité injecte dans le réseau, il se passe plusieurs années. Et des études sont faites pendant ce laps de temps et nous savons précisément ce qui sortira de ces unités. Et c'est pour cette raison que je peux vous dire qu'en 2030, on sera exactement à 22,7%.
En Grand Est, l'objectif affiché est de 100% de gaz vert d'ici à 2050. Jean-Louis Dalmolin nous explique d'où viennent les biodéchets.
Alors, ça peut être des biodéchets alimentaires, ça peut être des biodéchets qui viennent de cantine, par exemple, mais ça peut être aussi des biodéchets qui viennent du monde agricole, c'est-à-dire que entre deux cultures, un agriculteur ne peut pas laisser sa terre en friche. Il est donc obligé de planter quelque chose, et c'est ce qu'on appelle des cultures intermédiaires. Les cultures intermédiaires-là sont ensuite utilisées, valorisées, pour aller dans les méthaniseurs, alors qu'avant, elles étaient pas forcément valorisées. Les biodéchets vont se transformer en gaz, mais à la fin du processus, on a ce qu'on appelle un digestat qui reste dans la cuve et qui est en fait un engrais. Du coup, l'agriculteur va l'utiliser pour fertiliser ses champs et ça va lui permettre d'éviter d'acheter des engrais à l'extérieur de son exploitation.
En Meurthe-et-Moselle, il existe pour l'heure 12 sites de méthanisation, dont 5 en construction.
RCN, le quart d'heure actu, Magali Santulli.
Le journaliste Nicolas Demorand reprend le micro pour revenir sur sa bipolarité. Dans un podcast en 6 épisodes, le journaliste de France Inter, qui sera de retour à l'antenne fin août, donne la parole aux soignants, aux aidants et aux malades. En France, on estime que jusqu'à 2,5% de la population serait atteinte d'un trouble bipolaire. Depuis 2015, l'association Bipolaire Si tu savais, créée à Nancy, œuvre pour mieux faire connaître et comprendre les troubles bipolaires. Écoutez Philippe Quillet, le vice-président.
Les missions de l'association sont finalement assez simples. Elles consistent à passer l'information sur la maladie des troubles bipolaires. On n'est pas dans le soin, parce que pour cela, il y a les psychiatres, les médecins, etc. On a le centre expert des troubles bipolaires à Nancy. Notre fonction, on est une petite asso, une cinquantaine d'adhérents, mais c'est vraiment de passer l'information au grand public. L'idée, c'est de ne pas faire fausse route quant à l'interprétation des troubles bipolaires. Le nom de l'association, c'est bipolaire, point d'interrogation. Si tu savais, trois petits points, justement, faire passer un petit peu, dire aux parents, dire aux gens qui ne sont pas informés, savez ce qu'il faut faire quand on a des alertes. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire en réalité, hein. C'est poser le diagnostic. Une fois que le diagnostic est posé, en moyenne en France aujourd'hui, on compte entre 5 à 8 ans pour poser un diagnostic, ce qui n'est pas rien. On peut le confondre avec de la dépression, avec des moments de la vie un peu où on est un peu bizarre, où on est un peu speed, ou un peu voilà. Et donc le diagnostic se pose par un médecin, et c'est pour le moment, il se pose simplement par un entretien. Pour le moment, on ne détecte pas les signaux de bipolarité par une prise de sang, une radio, une IRM, c'est par un entretien assez précis. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, un peu dur à mettre en place, mais de plus en plus on détecte. Alors la suite, c'est le traitement, c'est-à-dire que la bipolarité, c'est une maladie chronique. La bipolarité, bah, ça se soigne à vie, j'allais dire, hein. Et on se stabilise, on peut vivre avec la bipolarité. Mais voilà, donc il faut un traitement. Donc là, il y a des traitements chimiques, hein, bien évidemment, qu'il faut doser. Pareil, il faut parfois plusieurs années pour trouver le bon traitement. C'est mal connu, il y a encore une mauvaise image. Souvent, dès qu'il y a une affaire dans les journaux, c'est un peu comme la schizophrénie, un assassin ou quelqu'un qui a fait quelque chose d'ignoble, on voit souvent le schizophrène, le bipolaire. Alors que, bien sûr, la bipolarité ne rend pas méchant, ne rend pas, c'est une maladie qui frappe comme la foudre, hein, le diagnostic tombe comme ça. Évidemment, c'est des personnes, ces malades doivent être accompagnés, et il y a aujourd'hui une nette évolution, à la fois dans les médicaments, mais aussi dans la thérapie orale. Ça peut se déclarer sur le tard, mais bien souvent, les premiers symptômes, c'est à l'adolescence. Hein. L'idée de faire l'association, c'est aussi qu'il y a, je ne sais plus les chiffres, mais je crois que c'est 1/4 ou 1/5 de personnes bipolaires qui tentent de se suicider. C'est pour ça que c'est un peu urgent de ne pas laisser ça de côté. Tant qu'on n'est pas confronté à ça, on a l'impression, on regarde de côté, quoi. On regarde de travers. Hein. On dit, oh, qui se sait, enfin, on ne s'approche pas trop parce que c'est pas bien vu, etc. Je pense malgré tout qu'on est sur la bonne voie pour en parler.
RCN, le quart d'heure actu, midi 15.
Et dans le reste de l'actualité, entrée en lice réussie pour les Bleus. La France a débuté hier son mondial en battant le Sénégal 3-1. Malgré une entame compliquée, les Bleus se sont réveillés à la reprise. Après un doublé, Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 58 buts à son actif. C'était le premier procès depuis le début du scandale du périscolaire dans la capitale. Le tribunal correctionnel de Paris a prononcé mardi la relaxe d'un ancien animateur du 11e arrondissement, accusé d'agression sexuelle par 9 fillettes de CM2. Si les juges ont pointé des comportements inadaptés, ils ont estimé qu'ils n'étaient pas pénalement répréhensibles, provoquant l'incompréhension totale des familles. Le tribunal a estimé que les faits n'étaient pas suffisamment caractérisé. Dernier jour du sommet du G7 à Évian, le président américain Donald Trump va faire un détour par Versailles avant de quitter la France pour un dîner de travail au château sur invitation d'Emmanuel Macron. L'occasion également de célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine à laquelle la France a participé. Après des tensions ces derniers jours entre les deux chefs d'État, pas encore arrivé sur le sol français, le président américain menaçait déjà la France de taxes sur les vins. De son côté, le président français n'a pas accueilli son homologue sur le tapis rouge, comme le prévoyait pourtant le protocole. Les refus d'obtempérer routiers sont en hausse de 10% en 2025, selon le ministère de l'Intérieur, avec plus de 28 000 refus d'obtempérer relevés en France. Les auteurs sont majoritairement des hommes de moins de 30 ans, précise le ministère. Les contrôles se sont intensifiés, les forces de l'ordre ciblant particulièrement le défaut de permis de conduire ou d'assurance. Chine au BMW, c'est fini. Le grand magasin parisien va changer d'exploitant et va mettre fin à son partenariat avec la controversée marque chinoise. Après l'arrivée d'une boutique Chine en novembre, de nombreuses autres marques avaient quitté le magasin. Une erreur que reconnaît Karl-Stéphane Cotendin, ex-directeur général du BHV et de la Société des grands magasins. Cette expérimentation était une erreur stratégique, a-t-il concédé. Il affirme que Shein sera idéalement parti d'ici Noël. De son côté, Shein dit respecter la décision du BHV et regretter que cette collaboration expérimentale se soit déroulée dans un contexte d'importantes difficultés préexistantes.
Le quart d'heure actu sur RCN.
Le quart d'heure actu, ça touche à sa fin. Et une dernière information avant de nous quitter. Un colorant potentiellement dangereux dans le sirop à la menthe. L'application Yuka dénonce dans une enquête l'utilisation du colorant artificiel bleu brillant FCF ou E133, dont la seule utilité est de donner une couleur verte plus attractive au sirop à l'eau. Cet additif est controversé en raison de plusieurs risques potentiels pour la santé, notamment chez les enfants. Alors même qu'il n'y a aucune utilité nutritionnelle ni fonction de conservation, souligne Yuka. L'application a identifié sa présence dans 65% des sirops à la menthe commercialisés en France, que ce soit par de grandes marques nationales ou par des distributeurs. Le E133 est notamment suspecté de favoriser l'hyperactivité et les troubles du déficit de l'attention chez l'enfant. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, même endroit, même heure.
Pour tout savoir sur RCN, www.rcn-radio.org.